mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde, nous sommes le jeudi 6 février. Aujourd'hui, on va aller au Groenland où ça chauffe à tous les points de vue. On va s'intéresser aussi à une question, plusieurs questions liées, on va dire, à la liberté d'expression, hein, qui est un petit peu une thématique qui revient souvent, qui est utilisée, tordue dans tous les sens. On va parler notamment de l'éviction de l'humoriste Merwan Benlhazar, qui est passé une fois à la télé sur France Télé, mais visiblement il n'y repassera plus, parce qu'il ressemble trop à un islamiste. On va parler aussi du procès de l'enfarineur du Vigan, qui est passé hier en comparution au tribunal d'Alès. Et puis voilà, le reste, je vous le dirai au fur et à mesure. C'est comme ça que ça commence, en tout cas. Et oui, c'était hier, donc mercredi, que le procureur de la République d'Alès a requis 4 à 5 mois de prison avec sursis, ainsi que 500 euros d'amende, contre ce jeune homme qui avait jeté de la farine sur le député gardois, M. Allégret Pilot, affilié à l'UDR et qui s'est donc rallié au RN pour les dernières législatives. Au mois d'octobre, s'était lui arpenté la foire de la pomme et de l'oignon doux des Cévennes au Vigan, quand le prévenu lui a jeté de la farine au visage et sur son costume pour lui signifier qu'il n'était pas le bienvenu. Il était aussi accompagné d'ailleurs de toute une délégation d'une casserolade qui suivait ce député dans les allées du marché donc, de la foire de la pomme et de l'oignon doux. Le ministère public considère de son côté qu'il s'agit là de violence et c'est là-dessus un petit peu que s'est jouée l'audience d'hier. On va donc aussi un petit peu décortiquer tout ça, la violence ou l'outrage. Nathan, donc c'est son prénom, avait refusé avait refusé la reconnaissance préalable de culpabilité donc lors de son interpellation et de son audition. Il attendait donc son audience depuis le 6 novembre dernier. Car dès la garde à vue, il a reconnu les faits, mais contesté, avec sous les conseils de son avocat, la qualification donc de violence sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité lors de manifestations sur la voie publique en récidive. Sans incapacité de travail. J'ai fait une petite coquille. Donc depuis le 6 novembre, la défense donc, de l'enfarineur, on l'appellera, souhaite que son acte soit qualifié d'outrage. C'est ce qu'il expliquait déjà dans les colonnes d'Objectif Gare, le média qui suit cette affaire de manière assez exhaustive depuis le début. Alors hier, la salle d'audience était pleine, puisque une cinquantaine de personnes étaient venues soutenir le prévenu, qui n'ont pas pu toutes rentrer dans la salle. Une affluence donc inhabituelle qui a déjà, en préambule, donné lieu à un avertissement de la part de la présidente du tribunal, Madame Pagès, pour éviter toute manifestation dans la salle. Elle a ensuite exposé les faits, en rappelant la condamnation donc, du prévenu pour des faits de même nature. Il s'agissait d'une interpellation lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Montpellier. Celui-ci a pu quand même faire un propos préliminaire à l'audience. Il a expliqué que les idées qu'Alexandre Pilot diffuse en permanence sont nauséabondes. Il est sexiste, soutient des théories racistes. On voulait lui faire savoir qu'il n'était pas le bienvenu en pays viganais, puisqu'il rappelle que c'était une action collective à la base. Mais, rappelle-t-il, je regrette de lui avoir fait cette publicité, d'autant que depuis, il a diffusé ma photo, mon nom de famille et mon adresse sur ses réseaux sociaux. L'avocat du prévenu, d'ailleurs, Guillaume Garcia, reproche au procureur de ne pas s'être saisi de cet affichage public des contacts et du nom du prévenu, alors que même que celui-ci remet en cause la présomption d'innocence. Alors je vous donne quelques extraits du résumé de cette audience. Donc je vous rappelle que j'ai trouvé sur les colonnes du média Objectif Gare, c'est assez long mais j'ai sélectionné quelques extraits, notamment sur cette question de qualification des faits. Alors la jurisprudence est rappelée et, par le défenseur, donc, il rappelle qu'un député n'est pas dépositaire de l'autorité, mais une personne chargée de mission de service public. Et sont rappelés bah, d'autres cas précédents, par exemple l'enfarinage qu'avait subi François de Rugy, un politique d'envergure nationale, qui avait eu plus de classe qu'Alexandre Allégret-Pillaud et n'avait pas porté plainte, ce sont les mots de la défense, et dont les faits avaient d'ailleurs été qualifiés d'outrage à l'époque, et non de violence, pour de la farine aussi. Du côté du député, le défenseur du député, lui, rétorque « Vous n'avez rien compris à ce qu'était le débat démocratique. Là où les comportements sont sauvages, c'est la démocratie qui recule. » Le défenseur du député revient sur l'acte. Il dit qu'envoyer de la farine au visage, comme si c'était un moins que rien, que le geste est tellement banalisé par l'accusé que vous êtes en récidive. Il y a aussi en effet une question de récidive, car si les faits restent qualifiés de violence, ça reviendra effectivement à une récidive. Voilà, l'avocat du député voit dans la préméditation, à savoir l'achat du paquet de farine au moment de la manifestation, une circonstance aggravante, et il demande donc pour sa part un préjudice moral de 15 000 euros, ou encore la dégradation d'un costume d'une somme de 890 euros. Pour expliquer qu'il ne s'agit pas d'un outrage, d'ailleurs, le procureur Abdelkrim Grini revient à la définition et bizarrement bah, s'auto-contredit un petit peu. Car justement, si on lit justement la définition juridique d'un outrage, entre les paroles, gestes, menaces, écrits ou images, ça ce sont les choses qui sont mentionnées, figure aussi l'envoi d'objets quelconques. Mais le procureur poursuivit en expliquant qu'à son avis, ce sont des violences parce qu'il y a un geste volontaire. Il réclame pour sa part 800 euros d'amende et 4 à 5 mois de prison avec sursis, ainsi qu'une amende de 500 euros. Du côté de la défense, on rétorque que personne n'a été ni mort ni blessé, puisque l'agression n'a même pas provoqué d'interruption temporaire de travail, ce qui limite d'ailleurs la demande de circonstances aggravantes de la part de l'accusation. L'avocat de l'enfarineur prend donc le procureur au mot, et il cite également la définition juridique de l'outrage, en ajoutant d'ailleurs un point, à savoir que sur le site servicepublic.fr, si on lit la définition de outrage, on trouve d'ailleurs objet d'envoi quelconque, exemple, l'envoi de nourriture sur le maire d'une commune. Donc c'est carrément précisé. C'est donc une requalification d'outrage qui serait importante pour la défense, parce que ça ferait sauter la récidive si ça restait en violence, et que ça interdirait en plus toute peine d'emprisonnement. L'avocat de la défense, Guillaume Garcia, a rappelé l'entarteur des années 80-90, hein, Noël Godin, qui faisait d'ailleurs les beaux jours de la presse et de la télé, des vidéos qui ont été virales. Ce qu'on regardait d'ailleurs à l'époque, dit-il, c'était surtout la réaction de celui qui était entarté. Et de plus, dit-il, dans la partie civile qu'a déposée Alexandre Allégret-Pillaud, il parle lui-même d'outrage. Il est donc regrettable que l'enquête n'ait pas été réalisée à charge et à décharge. Et il faut noter que dans ce dossier, d'ailleurs, deux jours plus tard, suite à cet incident, c'était le dimanche, Alexandre Allégret-Pillaud était à la barre de l'Assemblée nationale et a pris la parole à titre personnel pour se faire mousser et déformer les faits. En fait, dans ce qu'il raconte, il parle de 40 fascistes rouges et qu'il a fallu être exfiltré par les gendarmes, ce que contredisent toutes les vidéos disponibles et même les gendarmes. Et il a dit qu'il a été besoin de se réfugier à la gendarmerie. Allez voir la vidéo, vous verrez que la réalité est tout à fait différente. Ceci doit entrer dans les faits, insiste le bâtonnier alésien, même si le motif de provocation ne permet pas au prévenu donc d'échapper à la sanction. Et enfin, il termine donc ceci, sa plaidoirie. Si vous suivez notre requalification donc en outrage, cela aboutira à une peine d'amende ou d'intérêt général, principe accepté par le prévenu, alors qu'il était d'ailleurs interrogé par la présidente. Le député, personne ne le connaît, et c'est sur son étiquette politique qu'il a été élu, pas sur son nom, insiste l'avocat de la défense. Aujourd'hui, il en est le vrai gagnant, et il n'y a pas de préjudice. L'avocat insiste sur le caractère festif de la journée, l'insertion parfaite du prévenu, et il termine en disant « Le trouble résultant de l'infraction a cessé, il y a donc tout pour relaxer mon client ». La décision finale sera rendue, donc après un peu de réflexion, le 4 mars par le tribunal d'Alès. Justice médiatique expéditive, là c'est carrément du jour au lendemain, c'est l'humoriste Merwan Ben Lazar qui s'est retrouvé accusé d'islamisme. Je ne sais pas si c'était un motif d'accusation, en tout cas il ne sera plus à l'écran, selon la ministre de la Culture Rachida Dati. Cet humoriste de 29 ans, qui a un comédien formé aux côtés de Kairon ou de Gad Elmaleh par exemple, qui a réalisé de nombreuses chroniques sur France Inter, est passé le 31 janvier, pour la première fois donc, dans l'émission C'est à vous sur France 5. Il était remplaçant d'ailleurs, au pied levé. Il a livré un petit sketch sur l'actualité en évoquant la Ligue des Champions ou Bernard Arnault. Tout le monde a ri. Jusqu'ici, donc, une histoire anodine. Mais son passage a suscité de vives critiques sur le réseau social X, des critiques qui ne portaient pas sur le contenu de la chronique, mais sur son apparence. En effet, puisqu'il porte une longue barbe, un petit bonnet comme on les hipsters là sur la tête et un pull ample, donc une prise de une capture d'écran a circulé sur de nombreux réseaux avec des gens outrés que un salafiste passe sur France Télé. C'est l'avocate Lara Fatimi d'ailleurs à interroger sur Europe 1 qui a vu pour elle des signes vestimentaires qui ont tout d'une tenue salafiste. Merwan Ben Lazar a répondu sur son réseau social Instagram en ironisant avec une photo de son bonnet, en expliquant que c'était un bonnet de la marque islamiste Zara, fabriqué en République islamiste du Portugal, glaçant. Ah ouais, surtout que les salafistes, a priori, ne sont pas trop incités à être humoristes à la télévision, de ce que j'en sais. D'autres critiques, d'ailleurs, ont été fouillées dans les réseaux sociaux et ont été chercher d'anciens messages sur Twitter de l'humoriste, sans qu'on puisse dire s'ils étaient tenus au premier ou en second degré. Des messages, pour certains, postés lorsqu'il avait 18 ans. Il faisait des blagues avec une pote à lui. Et voilà, donc... Des messages qui parlaient de la place des femmes, qui étaient donc selon lui de l'humour, et qui ont été exhumés depuis, et qui ont permis donc de continuer cette charge au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde. Une seule question, pourquoi ? Ce sont par exemple les mots de la députée européenne Nathalie Loiseau du groupe Horizon lundi sur X dans un message avec toujours la photo de Merwan Ben Lazar comme argument imparable. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a été interrogée hier, lors de la séance des questions au gouvernement, et elle a répondu qu'aucun propos n'était répréhensible dans la chronique de Merwan Ben Lazar. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement, a conclu la ministre. Mais pourtant, elle a expliqué qu'il ne serait plus à la télé. Merwan Ben Lazar a par ailleurs reçu le soutien d'autres humoristes, par exemple Guillaume Meurice ou Alex Vizorek, ou Charline Von Hennecker, ainsi que des responsables politiques de gauche. Et figurez-vous d'ailleurs que la question de la barbe, il en avait parlé dans un sketch, donc en exclusivité on a retrouvé les confidences de cet humoriste, confidences faites devant quelques milliers de personnes hein, dans la salle, c'était au Montreux Comedy Club, donc pas à la mosquée, et plein de caméras télé ont filmé ça, vous pouvez retrouver le sketch en intégralité si vous le souhaitez sur YouTube.
Bienvenue à cette conférence sur l'islam, on va commencer. Ça c'est ma blague favorite ça. C'est sûr, dans tous les rires, il y avait au moins un rire raciste. Tu vois ce que je veux dire, Omar ? Au moins une personne qui s'est dit c'est vrai que c'est un bougnoul. Ouais ouais ouais. Et on a rigolé avec cette personne. Et ça me rappelle la France. Mais bon, mais c'est nouveau tout ça pour moi, parce que bon, je suis arabe depuis le début et tout. Hein. Mais en gros, avant j'étais arabe sans barbe, vous comprenez ? Et j'ai laissé pousser un peu la barbe, parce que juste arabe en France c'est trop facile. Moi il me faut des vrais défis. Et là... On est sur un vrai défi. Je vous jure, ma vie en France, elle a complètement changé. Je sais pas comment vous expliquer le regard des gens tous les jours, tout le temps. Tous les gens, hein. Les gens que tu connais, les gens que tu connais pas. Bon, les gens que tu connais pas, tu t'en fiches un petit peu. C'est souvent les mêmes profils. C'est souvent, tu sais, souvent, tu remarques qu'ils ont un peu trop regardé la télévision. Tu sens que dans leur oreille, tu sais, ils entendent la voix des chroniqueurs qu'ils entendent à la télévision leur dire « C'est le résultat de l'islamisme dont on t'a parlé, c'est exactement ça. » Il est là, et ils sont là, c'est ça, c'est le regard de, c'est le résultat de l'islam radical, c'est ça. Et moi, je leur réponds pas. Je leur réponds pas parce que j'ai peur de les décevoir. J'ai peur de leur dire la vérité, j'ai peur de leur dire « C'est le résultat de 4 mois à regarder Viking. » Pour être honnête, c'est ça qui s'est passé. Je suis pas tout seul, il y en a qui regardent Viking dans cette salle, hein ? Oui, un peu, hein.
Voilà donc un petit extrait d'un sketch prémonitoire hein, qu'il a fait à Montreux en 2022. Petit résumé du média Contre-Attaque qui commente toute cette affaire. Ainsi comme Éric Zemmour, vous êtes un gros raciste condamné plusieurs fois pour vos propos, pas de problème. Vous pourrez passer toutes les semaines sur le service public pendant 10 ans et même faire carrière en politique. Ou si comme Arthur, vous avez agressé sexuellement des dizaines de femmes dans votre émission, pas de problème, votre carrière n'en sera pas écornée. Ou comme PPDA, utiliser votre statut de présentateur vedette pour violer pendant des années, impunité. Jean-Marc Morodini est cité aussi avec des actes pédophiles a priori. Et une chaîne vous proposera toujours du travail. Et si on en est allé chercher les tweets outrageurs, je suis sûr qu'on pourrait faire un gros ménage sur la télé. Mais voilà, quand vous avez le malheur d'être un humoriste d'origine maghrébine avec une barbe, attention, un seul passage à l'antenne peut provoquer une véritable chasse à l'homme et entraîner votre licenciement express. On part se réchauffer au Grand Nord, au Groenland, avec des fractures, des frictions, mais sur le terrain politique. Après une pause de quelques semaines, les députés groenlandais faisaient leur rentrée à Nuuk, c'était ce lundi 3 février. Ils sont à 2 mois des prochaines législatives, qui doivent se tenir avant le 6 avril. Normalement, l'ordre du jour devait être rapidement expédié pour ce Inatsisartut, c'est le nom du Parlement groenlandais. Bah en fait, ça a été bouleversé tout ça par les menaces, vous le savez, proférées par le président américain Donald Trump, qui s'est dit prêt à s'emparer du territoire autonome danois par la force, et également la visite de son fils d'ailleurs, Donald Trump Jr., qui s'y est rendu le 7 janvier. Une réunion de parlement donc assez dont l'ordre du jour a été bouleversé. Ils craignent de voir le prochain scrutin justement se tenir sous influence étrangère, et donc les députés groenlandais ont examiné ce mardi en procédure accélérée un texte de loi qui risque d'être adopté, texte de loi qui va durcir les règles de financement des partis politiques de l'île. Ainsi, ces partis politiques n'auront plus le droit d'accepter des contributions étrangères ou anonymes. Et par ailleurs, aucune formation politique ne sera autorisée à recevoir plus de 200 000 couronnes, ça fait environ 27 000 euros, de la part de donateurs privés, dans la limite des 20 000 couronnes par contributeur. La loi vise d'autre part à accroître la transparence à l'avenir, donc toutes les contributions financières versées par des entreprises ou des organisations, ainsi que le montant des dons, devront apparaître publiquement dans les comptes des partis. Et par ailleurs, le lendemain, le Royaume-Uni et le Danemark se sont rencontrés pour coopérer pour la sécurité de l'Arctique. Ce sont le Premier ministre britannique Keir Starmer et la Première ministre danoise Mette Frederiksen qui se sont engagés en effet à coopérer pour la sécurité dans l'Arctique le mardi 4 janvier. La dirigeante du Danemark effectue en ce moment une tournée des capitales européennes en quête de soutien face aux convoitises du nouveau président américain sur ce territoire danois autonome. En ce qui concerne la sécurité dans le Grand Nord et la région de l'Arctique, le Premier ministre a rendu hommage au rôle important que joue le Danemark et a salué la récente annonce du gouvernement danois d'un nouveau paquet militaire pour défendre l'Arctique face aux activités hostiles, déclaré un porte-parole du Royaume-Uni après la rencontre. Les deux dirigeants sont convenus de renforcer leur coopération face aux menaces dans cette région en partenariat avec leurs alliés, a-t-il ajouté, sans mentionner explicitement le Groenland. Ça chauffe en effet au Groenland, mais là, au sens figuré, et ça craque de toutes parts. Le Groenland se fissure plus rapidement et plus profondément que jamais, ce qui représente un risque majeur pour la montée des eaux sur le reste de la planète. Le Groenland joue en effet un rôle clé dans la régulation du niveau des mers, mais sa calotte glaciaire montre des signes alarmants de fragilisation. En effet, sous l'effet du réchauffement climatique, les crevasses s'élargissent et s'approfondissent, ce qui accélère la perte de glace. Et certaines zones voient ainsi leur fracturation augmenter de 25% plutôt près des côtes, ce qui augmente le risque d'effondrement des glaciers côtiers. Toute cette dynamique menace d'accélérer l'élévation du niveau des océans avec, vous le comprenez, des conséquences majeures pour les régions côtières du monde entier. Ce sont des nouvelles observations par satellite qui ont montré que les crevasses qui strient la calotte glaciaire s'agrandissent et se multiplient bien plus vite que prévu. Cette étude a été publiée dans Nature Geoscience. Elle a été menée par des chercheurs de l'université de Durham, de l'Ohio State University et de l'université de Washington. Et elle révèle donc que ces fissures facilitent l'écoulement de l'eau de fonte vers le socle glaciaire, donc l'eau de surface coule à travers les fissures et accélère ainsi la désintégration de cette calotte glaciaire. Si cette dynamique se poursuivait, elle pourrait amplifier la montée des eaux et rendre obsolètes tous les modèles de prévision actuels. Comprendre ces processus devient donc essentiel pour essayer d'anticiper les conséquences du changement climatique sur le niveau des mers. Cette étude, elle a mis en évidence un phénomène qui était jusque-là sous-estimé, à savoir la capacité de ces crevasses à amplifier la dynamique de fonte de la calotte glaciaire. Les fissures ne sont pas de simples marques en surface, elles vont très profond et elles jouent un rôle structurant dans la mécanique des glaciers. L'augmentation donc des températures globales favorise la fonte de l'eau en surface, puisqu'on a eu, je crois, des températures à quasiment 15 degrés là-haut les derniers étés. Donc ensuite, l'eau liquide s'infiltre dans les crevasses et va lubrifier la base du glacier, celle qui est posée sur la roche. Ça réduit la friction avec donc la roche et ça accélère le glissement et l'écoulement de la glace vers l'océan. De plus, le réchauffement des eaux côtières fragilise aussi les fronts glaciaires, ce qui intensifie les processus de fracturation et de vélage. En comparant plus de 8000 cartes tridimensionnelles de cette calotte glaciaire entre 2016 et 2021, les chercheurs ont mesuré donc l'évolution des fractures sur environ 90% de la zone de fonte du Groenland. Et ils ont donc constaté une progression bien plus rapide qu'au cours des décennies précédentes. Le plus surprenant, confirmait un de ses chercheurs, Tom Chudley, c'est la rapidité du phénomène. Il explique que ce qui pouvait prendre autrefois des décennies se produit maintenant en 5 ans. Les observations satellites montrent en effet qu'en moyenne, le volume total des crevasses a augmenté de 4,3% sur 5 années, donc entre 2016 et 2021, mais que cette valeur va marquer, vu que c'est une moyenne, va marquer des grosses disparités régionales, notamment dans les secteurs où les glaciers se jettent dans l'océan. Ce sont les glaciers qu'on appelle marins terminaux. Au sud-est et au centre-est du Groenland, ces crevasses ont connu une expansion spectaculaire avec parfois 25% d'augmentation de volume. Ces secteurs sont déjà en plus vulnérables aux courants océaniques qui sont plus chauds. Et à l'inverse, du côté du centre du Groenland, central-ouest, avec le fameux glacier Sermek-Kujalleq, les crevasses, elles, ont diminué de 14% sur cette période, un ralentissement qui était attribué à un épaississement temporaire du glacier. Et cependant, la tendance donc, de cette réduction des crevasses semble déjà s'inverser. L'étude souligne en effet que ce glacier a recommencé à s'amincir au centre et à accélérer son écoulement vers la mer. Un signe donc que la fermeture des crevasses qui avait été observée ces dernières années n'aurait été que transitoire. Une reprise de la fracturation dans ce centre du glacier, donc une région stratégique, pourrait avoir des répercussions en cascade, puisque ça faciliterait la rupture des plateformes glaciaires et amplifier les pertes de masse de la calotte du Groenland, avec un impact donc direct sur l'élévation du niveau des mers. Depuis 1992, la fonte du Groenland a contribué à 14 mm d'élévation du niveau des mers. Les projections les plus récentes indiquent que cette contribution pourrait peut-être atteindre 30 cm d'ici l'année 2100. Encore plus alarmant, si la tendance actuelle du réchauffement persiste, on est bien parti pour, les scientifiques estiment que la fonte totale du Groenland et de l'Antarctique pourrait entraîner une élévation de 12 à 20 mètres au niveau des océans sur les millénaires qui arrivent. Ces nouvelles données révèlent en effet l'existence de mécanismes d'instabilité dynamique très mal intégrés pour l'instant dans les modèles climatiques. Plusieurs de nos modèles à grande échelle ont du mal à anticiper ces instabilités qui pourraient à elles seules entraîner jusqu'à 1 mètre de montée des eaux d'ici 2100 ou 10 mètres d'ici 2300, avertit le chercheur que j'ai cité plus tôt, M. Chudley. Alors que 2024 a été la première année où la température mondiale moyenne a dépassé 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, cette étude souligne donc une fois de plus l'urgence d'une action climatique coordonnée. Les fissures du Groenland ne sont pas qu'un phénomène glaciaire, elles sont aussi les prémices visibles d'un bouleversement qui menace les littoraux du monde entier. Et oui, car les données sur 2024 sont tombées, avec toujours l'observateur européen Copernicus qui a donné ce 6 février son premier bulletin climatique de la nouvelle année, pardon, pour 2025. Et 2025 ne déroge pas au bilan précédent. Il apporte lui aussi son lot de mauvaises nouvelles. Ainsi, le mois de janvier 2025 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la Terre depuis qu'on fait des mesures. Le mois passé, la température de l'air de surface a atteint les 13,23 degrés Celsius. Autrement dit, on est à presque 0,8 degrés de plus que la moyenne établie pour les mois de janvier des périodes de 1991 à 2020. Un autre mois surprenant, poursuivant les températures records observées tout au long des deux dernières années, malgré le développement des conditions La Niña dans le Pacifique tropical et leur effet de refroidissement temporaire sur les températures mondiales, commentait Samantha Burgess, qui est experte du service Copernicus. Les écarts à la normale, en plus, ont été les plus fracassants sur les zones européennes, où une température supérieure de 2,5 à la moyenne a été enregistrée. Le sud et l'est de l'ancien continent ont été les plus durement touchés, tandis que le Royaume-Uni et le nord de la France ont, eux, relevé des températures inférieures à la moyenne. Cet observatoire Copernicus est rattaché à la Commission européenne et il précise que ce mois de janvier 2025 s'inscrit donc dans une interminable série de records climatiques. Sur les 19 derniers mois, le seuil des plus 1,5 degrés Celsius de réchauffement qui était établi par l'accord de Paris a déjà été dépassé à 8 reprises. Et enfin, à 4 mois du sommet mondial pour les océans, qui va se dérouler à Nice, Emmanuel Macron est appelé à redoubler d'efforts pour la protection des mers. Plusieurs ONG, dont l'ONG Bloom, ou celle Seas at Risk, ou la fondation Tara, lui ont en effet adressé une lettre ouverte, qui a été publiée ce mardi 4 février, en lui demandant de mener une protection stricte dans au moins 10% des eaux françaises, et de bannir le chalutage de fond dans les aires protégées. Pièce maîtresse des politiques en faveur des océans, les aires marines protégées ne sont pourtant pas les havres de paix qu'elles devraient être. Sans une action urgente sur les méthodes de pêche destructrices telles que le chalutage de fond, les zones marines supposément protégées de l'Europe risquent d'être vidées de leur vie marine, avec des conséquences dévastatrices pour les petits pêcheurs, la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, alertent ces associations. Dans les prochains mois, ces ONG entendent donc mettre la pression auprès des dirigeants français et européens, puisque la lettre ouverte était aussi adressée au commissaire européen aux pêches Kostas Kadis. La crainte de ces ONG, eh bien, c'est justement que le sommet de Nice ne fasse un flop, malgré l'urgence écologique. Nous constatons que le programme de la conférence des Nations Unies sur l'océan échoue obstinément à adresser les deux principales causes de destruction de l'océan, à savoir les pêches industrielles et l'exploitation des hydrocarbures, soulignait d'ailleurs la directrice de Bloom à la fin du mois de janvier, dans une lettre aussi envoyée à Emmanuel Macron. Pour Claire Nouvian, donc le nom de la directrice de Bloom, cette conférence de l'ONU a le potentiel d'enrayer le scénario dystopique qui s'est mis en marche, à condition de sauver l'océan, principal régulateur climatique de la planète. Pour le moment, le gouvernement français n'a pas pris de mesures ambitieuses en ce sens.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais il faudrait déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Du monde.
Et on part en Guadeloupe pour terminer ces nouvelles du monde. Emmanuel Macron a en effet porté plainte suite à l'exposition d'une œuvre, une peinture qui le représentait la tête coupée. Le chef de l'État a porté plainte contre X, la vraie plainte contre X, hein, pas le réseau social, la semaine dernière en Guadeloupe, d'après la procureure de la République de Pointe-à-Pitre hier, suite à l'exposition d'une œuvre qui présentait le président de la République donc avec la tête coupée tenue à la main d'un combattant. Ce tableau incriminé représente donc un homme qui tient à bout de bras la tête décapitée d'Emmanuel Macron. C'est une peinture brandie en l'air. L'artiste Blow, c'est le nom de l'auteur de cette fresque, n'a pas souhaité réagir au dépôt de plainte, puisqu'il manque d'informations sur celle-ci pour l'instant. Son œuvre, en tout cas, pour le contexte, faisait partie d'une expo qui rassemblait les productions de 44 artistes, une expo intitulée Exposé au chlordécone. C'est une exposition qui a ouvert en janvier au Centre des Arts, un bâtiment en chantier depuis des années à Pointe-à-Pitre, occupé par un collectif d'artistes, le collectif Autis Résistance. L'œuvre a été décrochée avant l'annonce de la plainte, ont indiqué des artistes qui s'exprimaient collectivement au nom de ce groupe. En septembre 2018, Emmanuel Macron avait reconnu lors d'une visite en Martinique la pollution au chlordécone. Le chlordécone était utilisé massivement dans les bananeraies des Antilles jusqu'en 1993, et malgré son interdiction. Et donc Emmanuel Macron avait reconnu que c'était un scandale environnemental, mais il avait ajouté qu'il n'y aurait pas d'indemnisation de la population, et surtout qu'il n'y avait aucune preuve scientifique établie entre l'exposition au chlordécone et le nombre record de cancers de la prostate sur l'île. Ces déclarations avaient outré localement, alors que de nombreuses études mettent justement en avant un lien entre le pesticide et les cas de cancer. Plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée par le chlordécone, selon Santé publique France. Les populations antillaises présentent d'ailleurs un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés du monde. En 2019, lors d'un débat avec les élus d'outre-mer, Emmanuel Macron avait eu un vif échange sur le caractère cancérogène ou pas du chlordécone, le président affirmant notamment qu'il ne faut pas dire que c'est cancérigène. Il est établi que ce produit n'est pas bon. Il y a des prévalences qui ont été reconnues scientifiquement, mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que c'est cancérigène, parce qu'on dit quelque chose qui n'est pas vrai et qu'on alimente les peurs. J'ai essayé de vous faire une imitation d'Emmanuel Macron. La Cour de cassation se penche d'ailleurs depuis ce mercredi 5 février sur ce dossier, après le non-lieu prononcé en 2023 par la justice. Et quant à cette histoire du tableau, on verra bien ce qu'il en est.
Alors, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas.
On se quitte là pour les nouvelles du monde. Rendez-vous la semaine prochaine. Attention, week-end, grosse pluie et possiblement des chutes de neige en hauteur aussi sont annoncées. Donc un épisode Sevenol pas courant au mois de février, mais maintenant c'est comme ça. Épisode Cévenol doublé d'une phase méditerranéenne se confirme donc entre ce vendredi et le week-end. Des pluies parfois très abondantes sur nos régions et les regards sont tournés vers les chutes de neige qui pourraient présenter une grosse intensité près des Cévennes, Lozère et une partie de l'Ardèche et de l'Aveyron. On parle peut-être d'un mètre de neige qui risque de tomber autour de samedi. On ne sait pas encore si ça sera trop sur la Lozère ou peut-être même le Mont-Aigoual. En tout cas, attention, notamment si vous devez prendre la route. Sur ces bons conseils, je vous souhaite une bonne journée, peut-être une bonne soirée et à très vite sur les ondes de Radio Escapade.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.